pause musicale.
L'émission de l'association Toulon-Jacquoise, le GERFO.
Le rendez-vous mensuel qui vous propose un autre regard
sur la musique
et le patrimoine.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce numéro 30 de Pause Musicale déjà. Bonjour Anne.
Bonjour Jean-Luc et bonjour à tous nos auditeurs fidèles.
Alors, mythes antiques et récits fondateurs nourrissent la création musicale à toutes les époques. D'Orphée à Faust, musiciens, compositeurs et librettistes se sont emparés des personnages mythiques pour mettre en musique leur aventure et réinterroger, par l'art bien évidemment, les fondements de nos sociétés. Eh bien, pour commencer notre émission, qui de mieux qu'un célèbre séducteur mythique qui a donné son nom à une expression bien connue, le célèbre Don Juan, bien sûr. Alors, dans ce domaine-là, s'il est un seul opéra qu'il faut avoir vu et écouté, il s'agit très certainement, je dirais, de Don Juan, pour la richesse fabuleuse de la musique de Mozart et aussi pour le livret de Da Ponte. Dans une fuite en avant que seule la mort arrêtera, Don Juan passe en permanence de la tragédie à la comédie. Eh bien, le livret reprend tout simplement le mythe. Voilà, ça c'est notre émission d'aujourd'hui, les personnages mythiques, et il va reprendre le mythe du séducteur puni, mythe né dans le contexte du baroque espagnol. Comme l'explique le musicologue Jean-Victor Ocard, si l'époque était mûre, dans les régions de culture germanique, pour l'accueillir avec chaleur, c'est parce qu'il correspondait au romantisme naissant. La particularité de Don Juan est, en effet, je dirais, de se situer à la charnière entre l'Ancien Régime et le romantisme anti-rationaliste.
Alors, Don Giovanni est un opéra en deux actes et en langue italienne du genre drame joyeux de Mozart, créé à Prague le 29 octobre 1787 sur un livret de Lorenzo da Ponte, inspiré du mythe donc de Don Juan. L'action se déroule à Séville en Espagne au XVIe siècle. Le directeur de l'opéra de Prague passe commande à Mozart et à son librettiste Lorenzo da Ponte d'un nouvel ouvrage. Le choix se porte sur le personnage de Don Juan, car au même moment, à Venise, un opéra bâti sur le mythe du séducteur connaît un beau succès. Il s'agit d'une œuvre en un acte d'un compositeur italien dont le nom n'est pas passé à la postérité. Il s'agissait de Giuseppe Gazzaniga. Un peu oublié maintenant.
Oh, complètement.
Da Ponte est convaincu qu'il tient avec ce livret la base d'un succès à venir et qu'avec Mozart, ils vont pouvoir réitérer le triomphe des noces de Figaro.
Eh oui.
C'est tout cet héritage que Mozart et Da Ponte vont faire fructifier, sublimer dans cet opéra où alternent la tragédie et la comédie. Le succès est une nouvelle fois, forcément, au rendez-vous. L'ouvrage est aujourd'hui considéré comme l'un des opéras majeurs de Mozart, avec les noces de Figaro, Così fan tutte et la flûte enchantée, bien sûr, mais aussi de tout l'art lyrique. Richard Wagner lui-même le qualifiait d'opéra des opéras. Alors on va écouter ce petit passage.
Versare, ma tu vorrai
le génie de Mozart dans cette œuvre. Voilà, alors on va continuer. Et là, on va aller vers le Faust de Gounod, qui, bah, depuis sa création en 1859, est au firmament des opéras français. Et le texte de Goethe avait, bah, faut le savoir, quand même profondément marqué les romantiques, au point que beaucoup de compositeurs français comme Liszt, Berlioz, Gounod, moi, italien, Boito, l'ont mis en musique. Et Gounod avait 20 ans quand il tomba en admiration devant cette œuvre, pendant son séjour du prix de Rome en 1839. Alors, il y a évidemment matière. Le héros, au crépuscule de sa vie, veut s'empoisonner car toute science et croyance lui paraissent vaines. Le docteur Faust en appelle au diable et vend son âme au mal pour retrouver la jeunesse. Grâce au personnage diabolique de Méphisto, bien évidemment, s'ensuit l'amour, aussi ardent qu'impossible, auprès de Marguerite, bah malheureusement jusqu'à la mort.
Voilà, voilà. L'air des bijoux. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Je vous ferai la peine de pas... Voilà, je
le chante pas. Non, c'est dommage. Il fait beau, vas-y.
Justement, est un air d'opéra pour soprano créé en 1859. Il est chanté au troisième acte par le personnage de Marguerite dans l'opéra de Faust de Charles Gounod. Le livret est de Jules Barbier et de Michel Carré. Il est question dans cet air des bijoux d'une métamorphose, celle d'une jeune fille qui se trouvait laide en une femme sûre de sa beauté. Cet air compte parmi les plus fameux airs d'opéra. Alors, j'ai pas pu résister quand même.
Oui,
petite histoire dans la grande histoire quand même, c'est que pour ceux qui connaissent Tintin, dans les aventures de Tintin d'Hergé, c'est l'air fétiche de la cantatrice Bianca Castiafiore. Je suis sûre que vous avez l'image en tête maintenant.
Possible.
J'invite mesdames à chanter ça tous les matins quand vous vous êtes faites belle dans votre miroir.
Voilà, devant le miroir. Vous penserez à la castafiore, je promets, moi, je crois, j'ai le droit.
Un petit contre-truc tous les matins.
Voilà, ça réveille la voix. Alors, on continue avec Othello, ce coup-ci, qui est un opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi sur un livret d'Arrigo Boito, d'après Othello ou Le Mort de Venise de William Shakespeare, et créé au théâtre de la Scala de Milan le 5 février 1887. Alors que Verdi avait normalement décidé de mettre un terme à sa carrière de compositeur d'opéra, après le triomphe énorme d'Aïda en 1871, bah, c'est l'éditeur de partitions milanais, Giulio Ricordi, qui était vraiment désespéré hein, de perdre une aussi importante source de revenus, ce qu'on peut comprendre, qui parvient à remotiver le compositeur pour une série d'habiles propositions et de relances. Ricordi rappellera d'ailleurs le projet au bon souvenir de Verdi en lui envoyant, vous allez voir, comme quand il avait la suite dans les idées, de Noël de suite, un gâteau avec un bonhomme en chocolat.
Comme une quoi allusion, le chocolat ah, moi, oui. Je le dis depuis toujours.
C'est ça, allusion à Othello. Au point que le projet d'opéra sera également surnommé...
Chocolat.
Voilà. Il y en a eu d'autres après. Hein. Verdi se laisse donc convaincre et finalement même enthousiasmé par le projet. Cependant, eh bien, le public, lui, il devra attendre 16 ans quand après même. Aïda pour applaudir bah, ce nouvel opéra du maître.
Comme quoi le chocolat, c'est la vie quand même. Hein.
N'est-ce pas?
Le succès est finalement triomphal dès la création. Verdi est rappelé à 20 reprises. L'opéra est bientôt produit à travers les théâtres en Europe, avec Londres et Paris, entre autres, comme outre-Atlantique avec New York. Mais plus que cela, Othello occupe depuis une place importante dans le répertoire lyrique international. Le paysage musical italien avait changé pendant la période d'isolement de Verdi. Nombre de ses compatriotes trouvant l'inspiration dans les innovations lyriques étrangères. Verdi répond dans Othello avec une musique qui renvoie aux formes et structures traditionnelles de l'opéra italien, mais dont la force dramatique, que lui seul savait faire, hein.
Oui,
et la
fait.
Fluidité sont indéniablement différentes en réponse au texte de Shakespeare. Le résultat est saisissant. Dans l'acte 1, Othello apparaît. Il a vécu les Turcs et exprime son triomphe dans une brève mais puissante arietta. La foule l'acclame tandis qu'il va rejoindre son épouse au palais. La foule se disperse un temps. Silago souhaite tout le mal à Othello parce que ce dernier a nommé Cassio capitaine à sa place. Il n'est pas content.
Ah, il n'est pas content, non, pas du tout.
Et ne lui a pas donné d'avancement. Roderigo, lui, veut se débarrasser du mort pour posséder sa femme.
Ouais, bah, allez, on y
c'est
va.
Un peu
on
compliqué hein, comme situation. Lago promet qu'il se vengera d'Othello pour servir leur dessein. La foule joyeuse revient pour allumer un feu de joie et les taverniers préparent une beuverie. On écoute donc ce passage chanté par le cœur de la foule.
Thank you.
Voilà.
Excellent.
Excellent. Ouais. Alors, on continue. Lorsque l'abbé Prévost signe en 1731 l'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, qui inspirera à maçonner sa Manon, c'est le tableau d'une époque qu'il nous livre, celle de la Régence, qui voit la vieille société s'éteindre, tandis qu'une nouvelle semble naître, pleine de la promesse d'une liberté nouvelle. Eh bien, c'est entre ces mondes qu'évolue Manon, fuyant le couvent pour embrasser les chemins du désir et de la transgression, et se jeter à corps perdu dans une passion brûlante et autodestructrice avec des Grieux. C'est l'histoire mythique, eh bien voilà, d'un amour impossible. Manon mourra dans les bras des Grieux après avoir été condamnée à la déportation pour prostitution. Alors, bah, l'histoire est à vivre et à écouter, car Massenet a mis tout le talent qu'il lui fait pour nous emmener, je dirais, dans cette histoire d'amour totalement improbable, quoi.
Alors, dans l'acte 1, nous découvrons cet amour de Manon et des Grieux, aidé par Lescaut, son cousin, rencontre totalement soudaine. Manon arrive par la diligence qu'attend son cousin Lescaut. Celui-ci, accueillant Manon, lui propose d'aller chercher ses bagages. Lescaut revient, mais il veut rejoindre ses amis partis boire et jouer aux cartes. Il fait alors croire à Manon qu'il doit retourner à la caserne et la laisse seule après lui avoir demandé, bien sûr, de se tenir.
Tout à fait. Ben voilà.
Restée seule, Manon rêve au luxe et au plaisir dans lesquels vivent les actrices. Le jeune chevalier des Grieux qui a raté la diligence arrive. C'est le coup de foudre immédiat. La voiture commandée par un certain Guillot arrive. Des Grieux et Manon profitent de l'occasion et s'enfuient. Jules Massenet introduit cette fugue par ce célèbre duo. Nous vivrons à Paris, tous les deux, que l'on va écouter.
Quel final, n'est-ce pas, vocal? Mesdames, allez-y, je vous encourage. Vous êtes bien sûr Pause Musicale, l'émission de cette saison Le Gerfaut. Et c'est aujourd'hui, nous parlons des personnages et des légendes mythiques dans la musique classique. Et on continue avec une autre moment mythique, Tristan et Iseude, qui est un opéra de Richard Wagner créé le 10 juin 1865, qui est souvent considéré comme l'une des œuvres, je dirais, les plus importantes du théâtre lyrique occidental. Alors, bah, c'est une histoire qui est inspirée par la légende celtique et mythique donc de Tristan et Iseult. L'opéra explore la passion intense entre Tristan et Iseult qui se manifeste à travers une musique, je dirais, audacieuse et harmonique. Alors, en fin de compte, il faut quand même savoir que c'est un peu inspiré, en partie en tout cas, par l'amour de Richard Wagner pour la poétesse Mathilde Wezendonck, qui, elle, était mariée à Otto Wezendonck et qui héberge en plus à cette période, gratuitement, Wagner.
Voilà.
Vous allez comprendre pourquoi après l'histoire de cet opéra. Et donc, Tristan et Isolde est la première œuvre créée sous le patronage du roi Louis II de Bavière. Et en se tournant vers l'Ouest et ses mers déchirées, Wagner offre un drame qui, fondé sur une idée unique, se contorsionne lui-même en une passion d'une telle intensité qu'elle ne peut qu'aboutir à une fin tragique. Mais celle-ci, plus qu'un renoncement, en fin de compte, c'est plutôt une délivrance, même, je dirais.
Alors, depuis longtemps, la Cornouaille tentait de s'affranchir de la suzeraineté du roi d'Irlande qui, afin de mater la révolte, avait dépêché sur place une expédition militaire qu'il confia à Morold, fiancé de sa fille Isolde. Armée de l'épée qu'Isolde, instruite de l'art de la magie, avait enduite de poison, Morold franchit la mer, mais au cours d'un furieux combat, fut tué par Tristan, le neveu du roi de Cornouaille. Ainsi, arrivant comme un naufragé sur les rivages d'Irlande sous le nom de Tantris, Tristan fut recueilli par Isolde qui, n'étant pas dupe du mensonge et ayant découvert dans la plaie du guerrier un morceau de la lame de Morold, prit la résolution de se venger de l'homme qui lui avait ravi son amour. Tandis qu'il dormait, Isolde brandit l'épée, s'apprêtant à terrasser Tristan qui soudainement s'éveilla. Le jeune homme regarda non le glaive qui le menaçait, mais uniquement les yeux d'Isolde, bouleversée, lâcha l'arme et soigna son ennemi afin que, guérie, elle n'eût plus jamais à croiser ce regard qui lui avait inspiré la pitié et l'avait détourné de son but.
Oh là là, que c'est beau.
Tristan et Isolde est un des meilleurs exemples du projet wagnérien de transformer l'opéra en drame musical. L'audace harmonique de la musique y commence à faire éclater le cadre de la tonalité. Le prélude du premier acte est devenu une pièce orchestrale à part entière, aussi célèbre que prestigieuse.
Voilà, là, on a entendu tout ce côté dramatique et cette densité dramatique de l'œuvre de Tristan Isolde de Wagner. Alors, on continue avec Norma. Norma, qui est un opéra en deux actes de Vincenzo Bellini, sur un livret de Felice Romani, d'après la fameuse tragédie d'Alexandre Soumet, Norma ou l'infanticide. Et l'opéra bien fut créé le 26 décembre 1831 à la Scala de Milan, sous la direction du compositeur, avec Giuditta Pasta dans le rôle de Norma et Giulia Grisi dans celui d'Adalgisa. Le rôle-titre était trop élevé pour Pasta et la première fut un total échec, malheureusement. Alors, après transposition d'un demi-ton, la quatrième représentation fut un triomphe. L'action se déroule en Gaule, lors du soulèvement du peuple gaulois mené par Oroveso, chef des druides et père de Norma. Alors, elle est centrée sur les triangles amoureux formés par Pollion, qui est le proconsul romain de Gaule, Norma, donc, la grande prêtresse et son ancienne et secrète compagne, et la jeune prêtresse Adalgisa. Alors, Norma, qui a rompu ses vœux de chasteté druidique et eu deux enfants de Pollion, découvre que celui-ci est maintenant amoureux de son amie Adalgisa, voyez-vous. Donc, elle tente de le convaincre de renoncer à Adalgisa, mais évidemment, lui, il refuse. Voyons. Norma avoue alors publiquement sa faute, et là, elle est condamnée à mort par le feu. Pollion est condamné pour avoir poursuivi Adalgisa dans le temple et monte, ainsi, lui aussi, au bûcher avec Norma.
Voilà. Norma est à la fois orgueilleuse et passionnée, vindicative, et la difficulté du rôle est de faire ressortir ses sentiments en plus de l'épreuve vocale, car le rôle de Norma passe pour être vocalement difficile. Le rôle-titre de Norma est considéré comme l'un des plus difficiles du répertoire des sopranos. Les cantatrices les plus célèbres, dont Maria Callas, Montserrat Caballé, Anna Notrebko, Cecilia Bartoli, Karine Desey et consortes ont marqué de leur interprétation ce rôle qui requiert à la fois une grande technique lyrique et des qualités de tragédienne. Le rôle de Norma requiert de la part de son interprète la technique la plus accomplie. Le célèbre Aria Casta Diva, invocation mystique à la lune, est une leçon bel cantiste. Longueur du souffle, précision des vocalises jusqu'au contrut par trois fois. Et qu'on écoute bien sûr cet air splendide. Thank you.
la voix sublime de Maria Callas, bien évidemment, sous cet air de la Casta Diva de Bellini. Magnifique passage. Alors, on continue. Et puis là, ce coup-ci, on va aller, je dirais, en Asie, mais l'extrême Asie même. Puisque en japonais, papillon se dit Chocho-san. C'est d'ailleurs le prénom de l'héroïne. Hein, c'est mignon. Hein. C'est d'ailleurs le prénom de l'héroïne de l'opéra Butterfly de Puccini, étant le sobriquet que lui donne l'officier américain Pinkerton, son triste amant d'un soir, bien évidemment. Alors, dans une période, c'est-à-dire celui du début du XXe siècle, hein, marquée par un engouement pour l'Extrême-Orient, Giacomo Puccini plonge avec délice et fébrilité dans la pièce de David Belasco, dont il impose, je dirais, quasiment le canevas dramatique à ses librettistes. Alors, homme de théâtre intuitif et perfectionniste, il veut doser le moindre mot, juger du meilleur effet qu'il fera. S'il lise dans sa musique de discrètes allusions aux coutumes et au folklore japonais, Puccini brosse surtout, je dirais, un portrait féminin bouleversant de justesse et de sensibilité. Alors, plus de 100 ans après sa naissance, ce drame de l'amour et de l'attente reste l'un des opéras, je dirais, les plus populaires du répertoire, arrachant, je dirais, toujours les mêmes larmes hein, aux spectateurs. Et Puccini dira même, lui-même dira, « Ma Butterfly reste l'opéra le plus sincère et le plus expressif que j'ai jamais conçu. » Ben, on va bien le croire, hein, volontiers. Alors, l'histoire émouvante de la séduction, puis de l'abandon d'une jeune et naïve japonaise par un officier américain qui, lui, est plutôt insouciant et égoïste, inspire au compositeur une œuvre résolument novatrice. Devenue aujourd'hui aussi populaire que Tosca ou la Bohème, Madame Butterfly s'est imposée au terme d'une genèse complexe dont les différentes étapes nous éclairent sur la constante volonté de Puccini d'explorer de nouvelles perspectives dramatiques et musical, n'est-ce pas, Anne ?
Puccini voit une correspondance évidente entre l'humble destin de la petite geisha et sa propre sensibilité qui s'épanouit dans l'expression musicale de sentiments authentiques et universels. Le compositeur veut être sincère et ce n'est pas un hasard s'il choisit, conformément à l'esthétique vériste, d'adapter une histoire basée sur un fait réel choquant, l'achat, puis l'abandon d'une très jeune femme par un officier américain dont elle attend un enfant. Ce sera l'occasion pour Puccini d'exalter le lyrisme d'un cœur simple. Lors de la première de cet opéra, le 17 février 1904, ce fut un échec retentissant et le plus gros échec de toute la carrière de Puccini. On reproche, entre autres, à Puccini la construction en deux actes qui les fait chacun beaucoup trop long. Puccini remet donc l'ouvrage sur le métier, procède à un certain nombre de coupures, reconstruit l'œuvre en trois actes, ajoute une romance pour le ténor et quand il redonne sa Butterfly à Brescia le 28 mai 1904, c'est un triomphe qui ne se démentira jamais plus. Puccini est rappelé 10 fois sous les acclamations du public, enfin. Conquis. L'ouvrage sera donné dans le monde entier. Alors, ce contact avec l'Extrême-Orient permet à ses écrivains et à ses peintres de renouveler leur vision artistique et il semble bien qu'il en aille de même pour Puccini, qui emprunte au Japon plus qu'un décor exotique. Le compositeur ne se contente pas de faire des emprunts aux mélodies japonaises qu'il a utilisées, mais il invente à partir d'elles tout un matériel mélodique issu de l'écriture musicale japonaise, comme le thème pentatonique de la geisha, qui domine les dernières pages de l'opéra. La partition est tissée de surcroît de nuances orchestrales qui recréent la musique japonaise en utilisant les sonorités nouvelles des bois, des cloches et des gongs. Puccini évoque ainsi un Extrême-Orient tantôt mystérieux et inquiétant, tantôt séduisant et captivant, renouvelant son inspiration aux sources du japonisme. Présentant plus qu'une opposition entre une naïve petite japonaise et un officier américain dominateur et sans scrupules, Madame Butterfly est aussi une sorte de synthèse musicale.
Oui, tout à fait. Alors, l'air Une belle live dremo, littéralement un beau jour, nous verrons, je dirais, est le titre de l'aria solo le plus célèbre de Madame Butterfly. Air que chante le rôle-titre, une soprano, à l'acte 2. Il débute Andante molto calmo, Chocho-san, son vrai nom en japonais Mademoiselle Papillon, s'adresse à sa servante Suzuki et imagine le jour heureux où le lieutenant Pinkerton reviendra enfin des États-Unis. Butterfly en trouve alors un soji, c'est-à-dire une paroi coulissante, hein, qui dévoile la rade de Nagasaki en contrebas et entonne l'un des airs les plus fameux du répertoire. Thank you. sublime air de Madame Butterfly avec la magnifique voix de Maria Callas. Alors, vous nous connaissez. Mm-hmm. Vous savez que dans Pause Musicale, on aime bien comme ça vous trouver, faire des petites recherches sur des morceaux, je dirais, des petites pépites musicales, hein, peu ou pas du tout connues. Eh bien là, Jean, vous en avez trouvé une. Allez, et pour finir et conclure, une pépite musicale de la musique et d'un personnage, je dirais, mythique, surtout par cette œuvre, et qui a été mythique parce que un homme bien connu, alors un grand homme, certes par l'histoire, mais alors surtout pas par la taille, paraît-il, hein, qui restera dans l'histoire comme un précurseur des grandes écoles nationales et d'un honneur national bien connu. Un mythe pour certains, un tyran total pour d'autres. Pourtant, c'est un personnage mythique qui régna sur la France avec autorité et succès. Vous avez trouvé ? Allez, cherchez. Bon, je vous donne la réponse. Eh bien, il s'agit de l'empereur Napoléon Ier. Et la pièce musicale qui va suivre et clôturer donc notre émission est tout simplement écrite pour son sacre. Bah, voyez-vous, quand on parle de personnages mythiques dans la musique classique, là, un compositeur s'est complètement lâché. Et la marche du sacre de Napoléon Ier, eh bien, est une œuvre emblématique de Jean-François Le Sueur, un compositeur français né en 1760 et mort en 1837. Et cette marche, bah, qui a été jouée lors du sacre de Napoléon Ier, je dirais, est une pièce musicale qui a marqué l'histoire de la musique française. Le Sueur, qui a également été maître de chapelle à plusieurs cathédrales et a composé plusieurs œuvres notables, a été impliqué tout simplement dans l'organisation de la cérémonie de sacre. La marche a été composée pour célébrer le sacre de Napoléon Ier et a été joué lors de cette cérémonie historique.
Alors, la marche du sacre de Napoléon Ier, qui a eu lieu le 2 décembre 1804, petit rappel historique, est une cérémonie religieuse et impériale marquante. Elle a été suivie par une messe où Napoléon et Joséphine ont été accueillis par le cardinal du Bellois et ont reçu l'eau bénite. Le cortège impérial, composé de 25 voitures, tiré par 152 chevaux, escorté par 6 régiments de cavalerie, cuirassiers, chasseurs à cheval, grenadiers à cheval. Ouf ! Le grand habillement de Napoléon, qui comprend une culotte et bas de soie, une tunique blanche brodée, un manteau de velours pourpre, une couronne d'or ouverte et une épée à poignée d'or, a été un symbole de son pouvoir et de sa dignité impériale.
Ah, il avait une vue grandiose, hein, du personnage.
Ouais, c'était Napoléon. Hein. La cérémonie a duré près de 5 heures et a été filmée par Jacques-Louis David, qui a ensuite réalisé 2 tableaux, le sacre de Napoléon et la distribution des aigles, pour immortaliser cet événement historique.
Eh bien, voilà comment on conclut une émission. Si vous voulez reprendre cette heure-là pour faire une entrée magistrale dans une église, allez-y, je vous encourage.
Ah, ça
fait sensation. Hein. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site CFM Radio, podcast Pause Musicale, sur le site Facebook aussi maintenant que nous avons Pause Musicale, et vous pouvez nous laisser vos messages, vos idées d'émissions. Nous étudierons ça de très proche. Moi, je vous remercie. Passez de très bons moments, de très bonnes journées en musique, avec des moments musicaux et le soleil. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, Anne.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt.
Pause musicale.
L'émission de l'association Toulon-Jacquoise, le GERFO.
Le rendez-vous mensuel qui vous propose un autre regard
sur la musique
et le patrimoine.